J'attendrai qu'il arrive pour vous dire qu'il est là. Mais ce qui est clair, c'est que effectivement, ça fait, c'est d'après mon calcul, la sixième fois que Riek Machar ne vient pas à la date annoncée. Et d'une certaine façon, cela en dit beaucoup sur la confiance qui règne, malgré l'accord signé, et aussi sur les énormes difficultés et les retards dans la mise en œuvre de l'accord obtenu en août de l'an passé.
Vous parlez de la confiance qui règne. Justement, qu'est-ce qui explique ce problème de manque de confiance entre les deux parties?
Écoutez, on est face à une situation qui est quand même assez extraordinaire, c'est-à-dire que les clivages à l'intérieur du SPLM ou du SPLX qui est aujourd'hui au pouvoir sont connus depuis de très nombreuses années. L'absence de véritable réconciliation au-delà, disons, de la promotion de certains individus dans des postes importants, elle a été soulignée par les organisations de droits de l'homme, même par certains analystes politiques, et d'une certaine façon, rien n'a été fait. Aujourd'hui, on est dans une crise qui a été extrêmement violente. La communauté internationale, en faisant de multiples pressions, est arrivée à obtenir un accord au forceps. Mais il est clair que, si vous voulez, il faut faire preuve d'un optimisme professionnel pour penser que les choses sont sur la bonne voie et que, d'une certaine façon, on va maintenant se retrouver dans un Sud-Soudan en paix où on pourra d'abord regarder l'ensemble des dommages causés par cette crise et puis ensuite réparer, construire et reconstruire.
Ce n'est pas la première fois qu'il va occuper le poste de premier vice-président, il l'avait avant.
Le vrai débat, c'est le gouvernement. C'est un gouvernement d'union nationale sur lesquels ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord en janvier. Et comme ils avaient épuisé toute la patience de la communauté internationale, il fallait faire quelque chose pour, d'une certaine façon, restaurer un minimum de confiance entre les protagonistes du conflit, donc Machar et Kiir, et la communauté internationale. Et donc c'est pour ça, c'est dans ces conditions-là que Riek Machar a été nommé vice-président. Il a été nommé vice-président sur la base d'un échec qui est la constitution d'un véritable gouvernement d'union nationale. C'est pour ça que, si vous voulez, il me semble péremptoire de penser que la nomination de Riek Machar constitue en soi un pas vers la paix. C'est beaucoup plus une mesure d'autoprotection des deux camps pour éviter de nouvelles sanctions internationales. J'ai peur que ça ne soit que cela.
Quelles sont les insuffisances de l'accord et quels sont les points forts qui peuvent pallier aux lacunes?
Écoutez, aucun accord de paix dans un conflit civil, enfin dans un conflit interne, n'est un bon accord. La question, en fait, on l'a vu pendant très souvent quand on parlait encore du Soudan, la question c'est plutôt, est-ce que ce texte permet de construire la confiance entre les parties qui, du coup, permet une mise en œuvre un peu plus importante de l'accord ou permet une relecture beaucoup plus optimiste, beaucoup plus ambitieuse des termes de l'accord tel qu'il a été conclu. C'est-à-dire que les textes sont les textes, c'est pas critiquer les diplomates, c'est simplement dire, bon, un texte n'est qu'un texte. Par contre, un processus politique qui va de l'avant et qui permet de restaurer l'écoute entre les parties au conflit, ça c'est quelque chose d'essentiel. La question qui est posée, et à mon avis elle relève pas de l'accord lui-même, la question qui est posée c'est est-ce que, jusqu'à quel point c'est les deux parties veulent réellement la paix, parce qu'ils n'arrivent pas à faire la guerre comme ils voudraient la faire compte tenu des pressions internationales. Et si vous voulez, c'est le jeu, c'est tout l'importance de la diplomatie régionale et internationale que d'arriver à translater ce questionnement sur un terrain qui sera un peu plus positif. Mais j'avoue, et là aussi ce n'est pas une critique vis-à-vis des diplomates qui y travaillent, mais moi j'avoue ne plus avoir de solutions, voyez, d'idées de solutions, parce qu'on a quand même l'impression qu'on est face à une telle défiance que, bon, il faut trouver d'autres interlocuteurs, et ces interlocuteurs n'existent pas aujourd'hui.